Il est 18h sur France Culture, le journal. Aurélie Kiefer, bonsoir Aurélie.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Jour surréaliste au Royaume-Uni, les Britanniques sont appelés à désigner des députés qui siégeront peut-être quelques semaines au Parlement européen. Reportage à Tilbury, près de Londres. La coalition du Premier ministre indien Narendra Modi remporte les élections législatives et le BJP conserve sa majorité absolue. Nous irons à New Delhi. Des familles yézidis persécutées par l'État islamique entament une nouvelle vie en France. Sophie Parmentier a suivi le voyage de 28 femmes parties du Kurdistan iranien avec leurs enfants. La grève reprend dans les hôpitaux de l'AP-HP alors que les urgentistes sont mobilisés depuis la mi-mars. Cette fois, toutes les professions sont appelées à faire grève pour la défense du service public. Même s'ils se préparent au Brexit, les Britanniques participent aux élections européennes. Ils étaient même les premiers à être appelés aux urnes. Mais dans les conversations, il est plus souvent question de la démission prochaine de la Première ministre que du scrutin européen. Les députés européens britanniques pourraient ne siéger que quelques semaines au Parlement européen, de quoi démobiliser sérieusement les électeurs. Sandrine Etowah-Andegh, vous vous êtes rendue à Tilbury, tout près de Londres, une commune qui avait massivement voté pour le Brexit au référendum de 2016.
Je n'y comprends rien, ça ne m'intéresse pas. Nos votes ne sont pas pris en compte de toute façon, dit Tracy en passant sans s'arrêter devant le centre social de Tilbury, transformé en bureau de vote. Attablé en terrasse, John répète qu'il n'y mettra pas non plus les pieds. Cette élection, c'est une blague. On aurait dû déjà quitter l'Union européenne depuis longtemps. Ça montre bien qu'il se fiche du peuple. Au contraire, il faut aller voter, répète Philippe. Un retraité lui a choisi le parti du Brexit de Nigel Farage, qui promet une sortie immédiate de l'Union européenne sans accord. On a notre reine, on veut retrouver notre souveraineté. Personne n'a décidé pour nous. Notre chef du gouvernement n'a pas eu les tripes de nous défendre. Elle n'en fait qu'à sa tête. On a déjà voté pour le Brexit. Il faut quoi ? Francis, déçu par les travaillistes, va voter pour les écologistes du Green Party, est clairement europhile, mais il défend la chef du gouvernement. C'est le chaos partout. Theresa May n'est pas la seule coupable. Je ne la blâme pas. Pour tout vous dire, j'admire sa ténacité. Au moins, elle essaye. Pour Francis, au contraire, sortir de l'Union européenne serait une catastrophe.
Sortir de l'Union européenne, c'est insensé, ça va nous coûter très cher, bien plus qu'on peut l'imaginer.
Élu qui a voté pour les écologistes espère que les sondages qui prédisent la victoire du parti du Brexit se trompent.
On votait aujourd'hui aux Pays-Bas où s'affrontent les populistes et le Parti libéral au pouvoir. Demain, les électeurs irlandais et tchèques voteront à leur tour. Mais pour les résultats officiels, il faudra attendre dimanche soir après la fermeture des derniers bureaux de vote européens. Marine Le Pen doit bien rembourser près de 300 000 euros au Parlement européen pour l'emploi douteux d'une assistante lorsqu'elle était eurodéputée. La Cour de justice de l'Union européenne a rejeté un pourvoi déposé par la présidente du Rassemblement national après une première décision du tribunal de l'UE. Le 18 juin 2018, il avait jugé que Marine Le Pen n'avait pas été en mesure de démontrer que son assistante parlementaire assurait des tâches effectives pour elle. La décision du Parlement européen de procéder au recouvrement de sommes indûment versées était donc bien justifié. En Inde, on attend encore les résultats officiels définitifs des élections législatives, mais la victoire du BJP ne fait aucun doute. L'Alliance démocratique nationale, constituée autour du Parti nationaliste hindou, arrive en tête. Le Premier ministre Narendra Modi va pouvoir continuer à diriger le pays pour 5 ans supplémentaires. Et c'est la première fois depuis 1984 qu'un parti indien conserve sa majorité absolue d'une élection à l'autre. Devant le siège du BJP, à New Delhi, les partisans de Modi célèbrent la victoire. Le reportage de Sébastien Farcy.
Tambours, pétards et conques religieuses sont déployés pour fêter la victoire annoncée du BJP. Les partisans défilent devant le siège de la formation hindouiste avec d'énormes pancartes de Narendra Modi et chantent des éloges au dieu Ram. Les gens ont voté pour le bon gouvernement, pour celui qui les aide, affirme ce militant. Il a mis en place beaucoup de programmes pour les jeunes comme lui, dit-il, et a fait de l'Inde un grand pays qui est respecté à l'étranger. Pour un autre partisan sexagénaire, c'est une affaire de sécurité nationale. Je suis un patriote, soutient cet homme. Modi est un héros mondial, il a combattu le terrorisme et il n'y a que les terroristes qui sont opposés à Modi. Juste avant les élections, une attaque d'islamistes pakistanais a frappé le Cachemire indien et le gouvernement de Modi a répliqué en attaquant le Pakistan. Ce climat de guerre a ensuite été exploité par le BJP. Ce gouvernement a prouvé que toute personne qui attaque l'Inde sera combattue par nos forces de sécurité et sera punie, nous confie Aman Sinha, un porte-parole du parti. Ce thème de la sécurité a totalement dominé la campagne et permis de faire passer au second rang les graves problèmes de chômage et de crise de l'agriculture indienne.
Sébastien Farsi, correspondant en Inde de RFI. L'offensive américaine contre Huawei s'intensifie en pleine guerre commerciale sino-américaine. L'administration Trump a placé le numéro 2 mondial des smartphones sur une liste de sociétés jugées suspectes auxquelles il est interdit de vendre des équipements technologiques. De nombreux partenaires de Huawei le lâchent, comme Panasonic aujourd'hui. Et le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, accuse même le groupe chinois de mentir sur ses véritables liens avec les autorités de Pékin. La Chine dénonce un harcèlement contre Huawei, Dominique André.
La guerre commerciale a pris un tournant technologique. La Chine a protesté officiellement contre les mesures prises par Washington pour empêcher Huawei de se fournir en équipement auprès des industriels américains. La campagne anti-Huawei s'étend. Le professeur Larry Diamond de l'université de Stanford est venu jusqu'en Asie pour mettre en garde le monde entier contre le numéro 2 mondial des smartphones.
Les sociétés occidentales, comme le reste du monde, doivent comprendre que Huawei n'est pas une entreprise indépendante. C'est comme une extension commerciale du Parti communiste chinois. Si cette compagnie arrive à construire le réseau de la 5G partout dans le monde, il y a des risques sérieux que toutes les données qui transiteront par leur réseau soient capturées par Huawei et transférées au superordinateur du Parti communiste chinois pour être analysées, transmises et regroupées avec d'autres informations. Je pense que cela poserait de vraies menaces sur la sécurité nationale des pays qui ont signé avec Huawei pour la mise en place du réseau de la 5G. Je pense aussi que cela représenterait une sérieuse menace sur la protection de la vie privée pour tous les utilisateurs d'appareils digitaux ou qui communiqueront via des réseaux qui utiliseront la 5G fabriquée par Huawei.
Mais si la Chine est vulnérable sur le plan technologique, les États-Unis sont dépendants des terres rares, ces métaux essentiels pour les technologies de pointe dont la Chine est le premier producteur mondial. C'est d'ailleurs un moyen de pression pour le régime chinois qui s'en est déjà servi en 2010 contre le Japon.
Dominique André à Pékin pour France Culture. 28 femmes yézidis et leurs enfants victimes du groupe État islamique en Irak sont arrivées en France. Plusieurs départements vont les accueillir et les prendre en charge conformément à une promesse d'Emmanuel Macron cet hiver. Persécutées par Daesh à cause de leur religion, ces femmes yézidis et leurs enfants ont voyagé hier entre le Kurdistan irakien et Toulouse et vous avez suivi leur périple au départ d'Erbil, Sophie Parmentier.
Quand le charter affrété par la France décolle d'Erbil, quelques-unes des 28 femmes yézidis assises pour la première fois dans un avion fondent en larmes derrière le hublot, en survolant ces montagnes du Sinjar qu'elles n'avaient pas envie de fuir. Nazée, 27 ans, jolie brune coquette, pense à son mari capturé par Daesh en 2014. Elle ne l'a jamais revu et ne sait toujours pas si les terroristes l'ont tué. Elle a été achetée par différents émirs de l'État islamique, transformée en esclave sexuelle, séparée de ses jeunes enfants pendant 3 ans avant de réussir à s'évader. Dans l'avion qui vole vers Toulouse, ses 4 bambins sont agrippés à sa longue jupe de jean. Elle leur sourit avec douceur, mais son regard est infiniment triste, comme cassé.
Moi, j'ai été kidnappée par Daesh. J'ai été leur prisonnière pendant 3 ans et 11 mois en Syrie. J'ai réussi à fuir et à revenir en Irak, mais je n'avais plus aucun droit après tout ce malheur que j'ai vécu. Donc c'est pour cela que je dis que la France est le bon endroit pour nous. Beaucoup de femmes comme moi sont venues en Europe et elles ont obtenu plus de droits qu'en Irak.
En Irak, dans leur communauté yézidi ultra traditionnelle, ces femmes veuves sont devenues quasi bannies, se désole Delvine, 33 ans, sa fillette blottie contre elle avec un ours en peluche.
Quand les terroristes de Daesh sont arrivés, ils ont tué mon mari. Je suis restée seule avec ma fille.
Et c'est parce que j'ai plus rien ici que je veux partir en France. En Irak, je suis rejetée. Personne ne veut m'héberger. Si Dieu le veut, ma fille et moi, on va construire un avenir meilleur en France. Je ne veux pas que ma fille soit illettrée. Je veux qu'elle ait une belle vie.
J'ai 7 ans et oui, je veux qu'on ait une belle vie avec ma mère, dit la petite fille aux sandales rouges. Quelques sièges plus loin, Khaled, 47 ans, a le cœur gros de quitter l'Irak avec ses plus jeunes fils, mais sans sa fille aînée, kidnappée par Daesh.
C'était le 3 août 2014, quand Daesh est arrivé au Sinjar. Depuis qu'elle a été kidnappée, je n'ai plus de nouvelles. Elle avait 17-18 ans, elle était avec son papa, ils ont tué son père, elle, ils l'ont capturée. Je prie pour qu'elle ait été sauvée des mains de Daesh, ça me soulagerait. Daesh, ils ont brûlé nos maisons, ils ont pris nos biens, ils ont tué nos enfants, ils n'ont fait que du mal. Je souhaite qu'ils soient éradiqués dans le monde.
Dans l'avion entre Erbil et Toulouse, des fillettes tapent joyeusement dans leurs mains. De jeunes garçons adolescents prennent des vues du ciel avec leur téléphone. Le plus âgé a 16 ans. Aucun de ces ados n'a été enrôlé par Daesh, certifie l'émissaire du Quai d'Orsay, Éric Chevalier, qui a accompagné ces familles yézidis durant ce long voyage.
Je suis venu pour vous accompagner, mais je suis surtout venu pour vous dire que la France est très heureuse de vous offrir la possibilité d'une nouvelle vie après les violences et les crimes de Daesh.
Après leur atterrissage à Toulouse, les 28 femmes et les 104 enfants yézidis sont repartis en bus par petits groupes vers différents lieux d'hébergement du Grand Sud. Les enfants disent qu'ils ont hâte d'apprendre le français à l'école. Hier soir, la Croix-Rouge leur a offert des jeux et un petit yézidi en costume a découvert son premier Monopoly.
Un reportage signé Sophie Parmentier. En décembre dernier, une quinzaine de femmes yézidis avaient déjà trouvé refuge en France. Le procès pour harcèlement moral de France Télécom et de 7 anciens dirigeants se poursuit et le tribunal correctionnel de Paris tente de cerner les circonstances dans lesquelles suicides et tentatives de suicide se sont multipliées au sein de l'entreprise à la fin des années 2000. C'était aujourd'hui la première audition de familles de victimes et le tribunal a écouté le témoignage de Marie-Pierre Burgeot. Son mari, qui travaillait à France Télécom, s'est suicidé en 2006. Compte rendu d'audience d'Antoine Marette.
Marie-Pierre Bugeaud est simple témoin, citée par des avocats des parties civiles. C'est une femme discrète, mais résolue. Discrète comme l'était son mari, un homme issu d'un milieu modeste avec un bac en poche et qui gravit un à un les échelons de France Télécom. Il est fonctionnaire et il voue une dévotion totale à son entreprise. C'est en 2005 que les problèmes commencent. La plateforme Orange, dont il est responsable à Poitiers, est réorganisée. On lui propose une mutation à Bordeaux. En tant qu'adjoint pour créer un département au sein d'une nouvelle unité, il accepte. Les journées de travail s'allongent. Marie-Pierre Bugeaud voit son mari s'user au travail. Il appelle son supérieur à l'aide dans un mail. Il y évoque les difficultés de sa mission et s'interroge sur l'opportunité de rester dans l'entreprise. Le mail n'est pas suivi des faits. Mais ce fonctionnaire dévoué ne veut pas décevoir. Sa femme décrit ses angoisses, les départs de plus en plus difficiles le matin pour aller au travail comme un enfant avant d'aller à l'école. Jusqu'à ce matin du 23 novembre 2006, il quitte la maison en même temps que sa femme et fait demi-tour une fois que leur chemin se sépare pour aller se suicider à son domicile. Il laisse un petit mot demandant à son épouse et à son jeune fils de lui pardonner. Il n'y fait pas mention de France Télécom, mais Marie-Pierre Bugeaud en est désormais persuadée, c'est son travail qui l'a tué. « Je vais vous poser une question difficile », annonce maître Sylvie Topaloff, avocate de Sud. « Votre mari était-il une personnalité fragile ?»« Il n'a jamais eu de problème psychologique », répond la témoin. « Peut-être qu'il n'a pas su se protéger », mais elle ajoute aussitôt, « Même si vous êtes fragile, le monde du travail n'est pas là pour vous fragiliser davantage ».
Antoine Marette, au Palais de Justice de Paris. Le premier conseil de défense écologique s'est tenu ce matin. Le gouvernement a répété que le projet Montagne d'Or, prévoyant une immense mine d'or à ciel ouvert en Guyane, était incompatible avec les exigences écologiques. Le ministre de la Transition écologique, François de Rugy, annonce la mise en place d'un observatoire de l'artificialisation des sols et le lancement d'études pour la consigne des emballages plastiques et aluminium. En pleine campagne électorale, l'opposition parle d'opportunisme politique et pour Greenpeace France, le gouvernement gouvernement radote, il n'annonce aucune mesure chiffrée ni aucune politique structurante. Ce conseil de défense ne sert à rien d'autre qu'à brasser de l'air, conclut l'organisation. Bruno Le Maire a reçu les représentants des salariés d'Ascoval. British Steel tient ses engagements financiers. Je ne juge que sur les actes, déclare le ministre de l'Économie. Même si le groupe britannique a été placé en faillite, Bruno Le Maire estime que l'activité de l'acierie de Saint-Saulve dans le Nord, récemment reprise par British Steel, n'est pas menacée. Bruno Le Maire.
Nous continuons à croire dans la reprise d'Ascoval par British Steel. Il y a des difficultés immédiates qui sont liées à la situation financière de British Steel, mais le projet est viable. Le repreneur British Steel tiendra ses engagements en termes de décaissement financier. Il a déjà apporté le premier décaissement qu'il devait apporter. Il tiendra ses engagements sur les 2,5 millions d'euros qu'il doit apporter d'ici quelques semaines et il tiendra ses autres engagements financiers. Je lui ai demandé d'aller à la rencontre des salariés d'Ascoval la semaine prochaine. Et donc le repreneur British Steel sera à Saint-Saulve la semaine prochaine pour rencontrer les salariés d'Ascoval et leur apporter toutes les garanties nécessaires.
Le ministre de l'Économie Bruno Le Maire au micro de Raphaël Ebenstein. Une nouvelle grève dans les hôpitaux publics parisiens à partir de ce soir. Le préavis est valable jusqu'à samedi matin. Ce mouvement s'inscrit dans le cadre des journées nationales d'action et de grève pour la défense du service public en début de semaine prochaine. Les urgentistes sont déjà mobilisés depuis la mi-mars et désormais ce sont les syndicats de toutes les professions de l'APHP qui appellent à se mobiliser, Maud Calvez.
Médecins, cadres, infirmiers, 8 syndicats demandent à l'unisson un moratoire sur la transformation de l'APHP, une manœuvre censée réduire son déficit. Ils réclament aussi la création de 10 000 postes, 400 euros d'augmentation de salaire, des revendications qui font l'unanimité. Christophe Prudhomme, médecin urgentiste délégué à la CGT.
Ça fait très longtemps que je n'ai pas connu ça. Les syndicats là représentent 100% des personnels, depuis l'agent hospitalier d'aide-soignant, le cadre, certains directeurs d'hôpitaux. Et moi, je suis médecin et on a un certain nombre de mes collègues médecins qui sont solidaires de la grève parce qu'aujourd'hui, ils considèrent qu'on est tous dans le même bateau et qu'il faut se serrer les coudes et qu'il n'y a pas d'un côté les médecins, de l'autre côté les personnels soignants.
Les syndicats ont été reçus hier par la direction et ne semblent pas convaincus par cet entretien. Jérôme Marchand-Harvier, secrétaire général de l'APHP, dit pourtant partager leurs inquiétudes.
Il y a un point d'inquiétude sur les conditions de travail et l'attractivité des personnels de l'APHP, on le partage. Et donc oui, il faut continuer à discuter, ce qu'on a fait hier après-midi pendant longtemps. Bien sûr qu'il y aura une mobilisation demain et que suite à cette mobilisation, on continuera à discuter avec les organisations syndicales pour améliorer les conditions de travail et la qualité de vie au travail à l'APHP.
Oui, aux discussions donc, mais la direction refuse la demande principale des syndicats, à savoir le fameux moratoire sur la transformation de l'APHP. Ils seront donc demain matin devant le siège social de l'établissement public.
Maud Calvez. Après la journaliste du Monde Ariane Chemin, le président du directoire du journal Louis Dreyfus indique qu'il est lui aussi convoqué le 29 mai par la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. La DGSI veut les entendre au sujet d'articles portant sur les affaires d'Alexandre Benalla et notamment sur le profil d'un sous-officier de l'armée de l'air, compagnon de l'ex-chef de la sécurité de Matignon. Plusieurs autres journalistes ont récemment été convoqués par la DGSI, ce qui inquiète la profession. Alors à l'heure où les médias sont en perte de crédibilité. Des valeurs comme la liberté de la presse et le droit d'informer sont-elles fragilisées ? Écoutez l'analyse d'Alexis Lévrier, spécialiste de l'histoire du journalisme et des médias.
Il y a, je pense, un pari sur l'image négative du journalisme dans son ensemble de la part du pouvoir. C'est un pouvoir, le journalisme, qui est fragilisé, qui a une image très négative auprès d'une large partie du public. Et il y a certainement l'idée de la part du pouvoir politique aujourd'hui qu'on peut parier sur cette défiance, qu'on peut compter sur cette mauvaise image des journalistes et que, par conséquent, ces convocations à la DGSI ne susciteront dans l'opinion aucune réaction. Or, avec Ariane Chemin, par exemple, on a à la fois une grande reporter et, dans l'affaire Benalla, quelqu'un qui a joué un rôle de journaliste d'investigation. Et on sait qu'elle a une image très positive dans l'opinion. Par conséquent, la levée de boucliers à laquelle on assiste aujourd'hui au sein du milieu journalistique risque de déborder sur l'opinion publique et par conséquent, entraîner une vague de mécontentement à l'égard du pouvoir politique lui-même.
Vous dites, il y a là des démarches qui peuvent être et devenir contre-productives pour l'État.
Si vous voulez, savez, les convocations par la DGSI, ça n'est pas quelque chose de nouveau. Hein. Il y en a déjà eu au cours des années précédentes. Et ce qui surprend ces dernières semaines, ces derniers mois, c'est leur caractère systématique. Donc je pense que ça renvoie à une image très négative du pouvoir. Depuis l'élection d'Emmanuel Macron, il y a une stratégie très clivante et parfois même assez brutale à l'égard de la presse, et avec l'idée qu'on peut l'instrumentaliser, qu'on peut maîtriser les horloges, maîtriser la communication et porter atteinte à la liberté de travail des journalistes. Je trouve ça assez dangereux et ça m'inquiète beaucoup plus finalement sur l'état de la démocratie elle-même que simplement sur l'état de la presse aujourd'hui.
Alexis Lévrier répondait à Mathieu Laurent et l'invité du journal de 22h sera l'avocat Fabrice Lorvaux, spécialiste du droit des médias et de la communication. Demain vendredi, il y aura de fortes pluies sur le sud-ouest, ciel couvert également du massif central aux Ardennes avec des averses fréquentes. Ailleurs, le temps sera plus calme. Les températures minimales iront de 8 à 16 degrés, les maximales de 16 à 24, jusqu'à 28 en Provence. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.